Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Mali, la mission dépêchée par la CDAO dans le pays après un deuxième coup d'État militaire en 9 mois se dit rassurée par les engagements pris quant à un retour des civils au pouvoir début 2022. Nous aurons un compte-rendu de notre correspondante à Bamako, Mariam Kouyaté. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo arrivera, selon son porte-parole, le 17 juin à Abidjan par un vol commercial en provenance de Bruxelles. Abdourahman Dia fera le point. Au Cameroun, libération hier de Nicodemus Amungwa, un avocat camerounais des droits humains arrêté il y a plus d'une semaine pour terrorisme. Mais la procédure engagée contre lui se poursuit, a déclaré à l'AFP le bureau du Cameroun, le barreau du Cameroun. En République démocratique du Congo, l'administrateur du territoire de Rutshuru et ses complices ont été arrêtés pour avoir détourné de l'aide alimentaire destinée aux déplacés qui ont fui l'éruption volcanique du 22 mai à Goma au Nord Kivu, a déclaré hier le major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire. Selon une analyse non publiée réalisée par des agences des Nations Unies et des groupes d'aide, quelque 350 000 personnes sont en situation de famine dans la région éthiopienne du Tigré, déchirée par le conflit, selon un document interne des Nations Unies consulté par l'agence Reuters hier. Le gouvernement éthiopien conteste l'analyse. Des millions d'enfants risquent d'être poussés à travailler à cause de la pandémie de COVID-19 au moment où le monde a enregistré la première hausse du nombre d'enfants au travail en 2 décennies, a mis en garde l'ONU ce jeudi. La plus forte hausse a été en Afrique subsaharienne, où ils étaient 16,6 millions de plus au début de l'année dernière qu'en 2016. Le président américain Joe Biden a claironné ce mercredi le retour des États-Unis sur la scène mondiale en entamant hier au Royaume-Uni une tournée au cours de laquelle il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine et annoncer dans un geste fort au sommet du G7 un demi-milliard de doses de vaccins Pfizer-BioNTech contre le coronavirus pour les pays pauvres. M. Biden avait déclaré avant d'embarquer pour l'Europe qu'il s'apprêtait à dévoiler une stratégie vaccinale mondiale. Accompagné de la première dame, Jill Biden, le président américain participera de vendredi à dimanche au sommet du G7 en Cornouailles, où pandémie et climat feront partie des priorités. Il rencontre ce jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson et dimanche la reine Elisabeth II. Monsieur Biden participera ensuite au sommet de l'OTAN avant un autre sommet avec l'Union européenne à Bruxelles. Le sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine est prévu pour le 16 juin à Genève. La justice russe a désigné mercredi comme extrémistes les organisations de l'opposant emprisonné Alexei Navalny, point d'orgue de la liquidation de son mouvement qui ouvre la voie à une répression accrue de ses partisans. Washington a condamné hier une décision particulièrement inquiétante et appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de Navalny. De nouvelles poursuites pour corruption ont été engagées contre la dirigeante birmane élue Aung San Suu Kyi et 2 autres anciens responsables de son gouvernement, a déclaré ce jeudi le quotidien Global New Light of Myanmar. Dernière minute, 3 Palestiniens tués dans des échanges de tirs avec les forces israéliennes en Cisjordanie. Bagdad a relâché hier un commandant pro-iranien dont l'arrestation avait provoqué une démonstration de force contre les autorités et selon des responsables des services de sécurité, à 1 heure d'intervalle, 5 roquettes ont visé une base abritant des Américains au nord de Bagdad et un drone piégé s'est écrasé sur l'aéroport de Bagdad où sont stationnés des soldats américains. Au Pérou, le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, crie victoire à la présidentielle après dépouillement de 99% du scrutin. Sa rivale, Keiko Fujimori, demande l'invalidation de... La suite de nos informations. Au Mali, le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, a accordé une audience ce mercredi à la délégation de la CDAO qui a dit avoir été rassurée sur les points clés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre. M. Maïga a annoncé son intention de former le nouveau gouvernement au plus tard ce dimanche. De Bamako, notre correspondante Mariam Kouyaté.
Probablement au plus tard dimanche, les Maliens connaîtront la composition du nouveau gouvernement du Mali, a annoncé Choguel Kokala Maïga après une audience accordée à la mission de la CEDEAO.
Sauf avis contraire du président de la transition, nous avons l'intention au plus tard dimanche d'annoncer aux Maliens la composition du nouveau gouvernement. D'un maximum 6 semaines, nous allons nous présenter aux Maliens à travers le CNT et l'opinion publique nationale pour tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale.
La CEDEAO a noté avec satisfaction les avancées. Jean-Claude Kassibrou, le président de la commission de la CEDEAO.
Nous avons noté, évidemment, des questions qui ont été évoquées par le Premier ministre, notamment au niveau de la formation du gouvernement, les questions concernant l'inclusivité. Nous avons également noté la réaffirmation des engagements, notamment les questions liées au respect des engagements, au respect du délai de la transition. Et surtout, nous avons noté l'assistance du Premier ministre pour faire en sorte que tout ce qui va être fait soit fait en parfaite harmonie et en consultation avec l'ensemble des acteurs et que ce soit vraiment, comme il l'a indiqué lui-même, totalement en phase avec la population malienne.
Rassurée par ces garanties, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dit soutenir la transition afin que le Mali retrouve sa stabilité.
Et le médiateur a aussi réitéré l'engagement de la CEDEAO à soutenir et accompagner la transition. L'objectif qui est celui du chef de la transition, du président de la transition, du premier ministre et également de la CEDEAO, c'est que le Mali retrouve rapidement donc son retour à l'ordre constitutionnel normal.
La CEDEAO recommande aux autorités de la transition la libération de l'ancien président de la transition Bandao, de son premier ministre Mokhtar Ouane et d'autres personnalités civiles et militaires arrêtées le 24 mai dernier. Mariam Kouyaté, VOA Bamako.
C'est par un vol commercial que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo va revenir à Abidjan le 17 juin. Après son acquittement par la CPI, la Cour pénale internationale, il était absent de son pays depuis 10 ans. Abdulrahman Dia.
C'est le porte-parole de l'ancien chef de l'État ivoirien qui donne les détails de son retour tant attendu. Justin Katinan-Koné précise lors d'un point de presse que le président Laurent Gbagbo est attendu le 17 juin à Abidjan. Il arrive par un vol de la compagnie Brussels Airlines à 14h GMT et local. Il précise que M. Gbagbo vient pour la paix et son souhait est que tout se passe dans la paix à l'occasion de son retour. Selon lui, l'ex-président arrive porteur d'un message très important de réconciliation attendu par le peuple et dont l'objectif est de ressouder au maximum les liens cassés. Ce proche de Gbagbo rassure que le gouvernement n'a pas émis de restrictions sur son retour et qu'il y aura bel et bien un accueil populaire. La décision du président Alassane Ouattara d'autoriser Laurent Gbagbo à rentrer dans son pays en lui accordant les avantages dus à son rang d'ancien chef d'État a été prise après son acquittement le 31 mars par la Cour pénale internationale.
Le ministre de l'Information du Nigeria, Lai Raufu Mohamed, a déclaré hier que Twitter doit s'enregistrer comme entreprise locale. C'est la condition préalable à la levée de son interdiction dans le pays. Le point avec Michel Joseph.
Twitter doit d'abord et surtout s'enregistrer comme une entreprise au Nigeria. Il doit tenir une licence auprès de la commission de diffusion et doit empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par ceux qui promeuvent des actes hostiles à l'existence même du Nigeria, a déclaré le ministre Lai Raufu Mohamed. La suspension de Twitter est intervenue 2 jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari. Abuja a annoncé vendredi la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays. Cette suspension, puis l'ordre du gouvernement aux médias locaux de supprimer leur compte Twitter dans un geste patriotique, a beaucoup surpris au Nigeria. Lundi, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada ont déploré la suspension de Twitter dans un communiqué conjoint. Le gouvernement nigérian a cependant reçu mardi les félicitations de l'ancien président américain Donald Trump, lui-même suspendu pour 2 ans par Facebook.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Les cours du café, seconde matière première la plus cotée au monde après le pétrole, sont en hausse. Depuis la saison 2017-2018, les prix du café étaient en chute en raison d'une abondance de l'offre. Selon l'Organisation internationale du café, l'indice de la livre de vente du café est en hausse pour le 7e mois consécutif. Une embellie qui devrait permettre de meilleures rémunérations pour les producteurs de café. La Mauritanie veut relancer le projet du complexe sucrier de Foum Gleïta dans le sud du pays, selon Financial Afrique. D'une superficie de 8000 hectares irriguée, ce complexe est composé d'une usine capable de produire 110 000 tonnes de sucre par an, d'une unité de production d'énergie électrique et de 2 unités de production d'aliments de bétail et de fertilisants. La Mauritanie a entamé une restructuration de sa dette publique et a décidé d'investir massivement dans les infrastructures, notamment par le biais des contrats de partenariat public-privé. Le rooibos sud-africain figure désormais sur la liste des AOP, les appellations d'origine protégée, au même titre que le champagne, le roquefort ou encore l'olive grecque de Kalamata. Une victoire pour l'industrie sud-africaine qui espère des retombées commerciales, les AOP bénéficiant d'un prix de vente généralement plus élevé. Le conseil du rooibos vise désormais une reconnaissance par l'Organisation mondiale du commerce pour étendre la protection du thé rouge au marché mondial.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Début réussi pour Paul Puit, fraîchement nommé sélectionneur des Diables Rouges du Congo. Le Belge a gagné son premier match hier face au Niger 1-0 dans une rencontre amicale à Antalya en Turquie. Guim Benza a marqué le seul but du match à la 31e minute. Le MENA signe par la même occasion sa 2e défaite de suite après celle face à la Gambie 0-2 la semaine dernière. À suivre ce soir, toujours en amicale, Guinée-Bissau-Cap-Vert et Afrique du Sud-Ouganda. En Europe, les 6 clubs anglais rebelles qui s'étaient inscrits à la Super League européenne ont conclu un accord financier avec la Première Ligue d'un montant de 25 millions d'euros, selon les médias britanniques. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham s'étaient déclarés membres fondateurs de la compétition en avril, mais le projet a rapidement capoté après une opposition générale. Le mois dernier, l'UEFA a annoncé des sanctions, notamment financières, contre 9 des 12 clubs à l'origine du projet avorté. Ces 9 clubs ont accepté de renoncer à 5% de leurs revenus provenant des compétitions de l'UEFA pendant une saison et de verser à eux tous 15 millions d'euros pour soutenir le football local et les équipes de jeunes en Europe. 3 clubs, Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, n'ont pas signé cette déclaration. Judo, la Française d'origine togolaise Clarisse Agbeyenou a décroché à Budapest un 5e titre de championne du monde chez les moins de 63 kilos face à la Slovène Andrea Leski, le 4e d'affilée, déjà sacré lors des mondiaux 2014, 2017, 2018 et 2019. Agbeyenou, 28 ans, n'est désormais plus très loin des 3 judokas les plus titrés de l'histoire des championnats du monde. La japonaise Ryoko Tani, la chinoise Wen Tang, 7 titres chacune, et la belge Ingrid Bergmans, 6 titres. Les médailles de bronze sont revenues à la serbe Anja Obradovic et à la néerlandaise Sané Vermeer. Basketball, le pivot camerounais des Sixers Joel Embiid n'a pas été désigné comme meilleur joueur de la saison régulière en NBA. C'est plutôt le pivot des Denver Nuggets, Nikola Jokic, qui a été couronné comme MVP cette année. Le Serbe de 26 ans a devancé largement au nombre de votes l'intérieur camerounais de Philadelphie. Deuxième est le meneur de Golden State, Stephen Curry, qui brigue une troisième récompense après 2015 et 2016. Nikola Jokic succède ainsi au grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo de Milwaukee, plébiscité ces deux dernières années. Durant sa sixième saison régulière, Jokic a tourné à 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives de moyenne.
Merci Yakuba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après plus de 60 ans d'indépendance, de nombreux États africains ou leurs populations respectives sollicitent un nouveau partenariat avec la Russie. Cela arrive à un moment où le continent est assez fragilisé avec l'insécurité et la montée de l'extrémisme violent. Les cas de la République centrafricaine, du Soudan et du Mali posent beaucoup de problèmes diplomatiques entre la France ou les États-Unis avec certains de ces États. Modibo Dambélé a joint à Bamako Sekou Tangara, directeur de la télévision Africable, pour expliquer ce regain d'intérêt des Russes envers l'Afrique.
Que dénoter de la lassitude envers l'ancienne métropole, la France. Souvent, on peut même se demander si c'est pas les Africains qui sont en train de vouloir solliciter les Russes. Mais prosaïquement, pour des pays comme la République centrafricaine et le Mali, parce que des pays ayant fait face à des velléités sécessionnistes, il y a une convergence de forces étrangères, des pays où il y a des troupes françaises, que ces pays-là, visiblement, semblent ne pas avoir été satisfaits de ce qu'est leur coopération avec un pays comme la France. Pour beaucoup de Maliens, le pays n'a été indépendant que de 1960 à 1968, avec des coopérations qui étaient axées sur les pays de l'Est, l'ex-URSS, la Chine, la Tchécoslovaquie. Ce sont les années fastes du Mali. Bon, pour beaucoup, en 2021, s'il n'y a pas de résultat tangible avec la France, il faut que les Maliens fassent appel à un pays comme la Russie.
Nous savons que la France, aussi bien que les États-Unis, voient quand même des mauvais et cette présence russe en Afrique. Comment les nouvelles Les autorités maliennes doivent-elles s'y prendre avec la Russie?
Les nouvelles autorités maliennes ne doivent pas affronter directement la France. Ce n'est pas judicieux, mais il n'est pas interdit au Mali de diversifier, par exemple, l'offre de coopération bilatérale et en d'autres relations avec la Turquie, avec la Russie. La coopération avec la France semble avoir atteint ses limites et aujourd'hui, il faut vraiment diversifier. Celui qui vient de la primature et de l'école russe, hein, dans ses interviews précédentes, et il revenait très régulièrement sur ces aspects-là. La plupart des militaires également qui ont contribué à faire le coup d'État sont beaucoup plus également de l'école russe. Elles vont peut-être maintenir le contact, les relations avec la France, mais elles sont en train de vouloir la diversifier avec d'autres pays, dont la Russie notamment.
25 ans après le génocide, le Rwanda a mis au monde une armée très disciplinée et très moderne. Quel enseignement les pays africains peuvent-ils tirer de cela?
Le Rwanda aujourd'hui fait partie des pays émergents. Donc ça, c'est le premier enseignement de la crise. On peut tirer l'opportunité de leadership parce que tout cela n'aurait pas pu se faire sans le leadership de Paul Kagame. Les dirigeants peuvent venir, ils peuvent avoir une vision, mais si les populations n'adhèrent pas à cette vision, ça peut difficilement prospérer. Ça ne pourrait pas se faire également sans l'aide de la communauté internationale, hein, parce que le Rwanda était un peu comme l'enfant gâté d'un pays comme les États-Unis.
Quelle doit être la nouvelle stratégie de coopération avec les Occidentaux, surtout dans ce contexte marqué par l'extrémisme violent?
Aujourd'hui, les relations avec l'Occident doivent être des relations décomplexées. Il serait vraiment mal apprécié que ce soit des relations infantilisantes, paternalistes, des relations de vis-à-vis basées sur le win-win, le gagnant-gagnant, sur le respect mutuel.
Joint à Bamako, Sekou Tangara, directeur de la télévision Africable.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
En Afghanistan, 10 des mineurs employés afghans de l'organisation britannique Hello Trust ont été tués mardi soir dans la province de Baghlan. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, alors que le vice-président afghan, Amrullah Saleh, avait d'abord imputé l'attaque aux talibans. Pour bien comprendre la situation, Claire Morin-Gibourg a joint le chercheur et spécialiste de l'Afghanistan à l'IRIS, Karim Pakzad.
La situation aujourd'hui sur le plan sécuritaire s'aggrave de jour en jour. C'est une situation qui était attendue depuis que Joe Biden avait annoncé une date de retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Donc c'est une situation où aujourd'hui l'Amérique ou les États-Unis ont tiré les conclusions de 20 ans de guerre ingagnable. En Afghanistan, on ne peut pas gagner cette guerre d'une façon militaire. Et donc, il faudrait chercher une solution politique. Donc, d'abord, ils ont cherché avec les talibans, d'où l'accord de paix entre les États-Unis et les talibans, il y a un peu plus d'un an, à Doha. Et ensuite, ils ont encouragé des négociations entre les talibans et le gouvernement de Kaboul pour arriver à un accord de paix pour former un gouvernement d'union nationale. Mais le problème est que depuis l'annonce de retrait des troupes américaines, qui sera effectif d'ici 2 mois, les talibans se trouvent dans une situation de force, d'abord sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Bon, sur le plan politique, aujourd'hui, le taliban est reconnu par l'ensemble des pays de la région. Les talibans ont fait voyage à Pékin, à Moscou, à Téhéran, à Islamabad et ailleurs. Et donc, cette victoire sur le plan politique, là, aujourd'hui, ils essayent de le confirmer sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à la progression des talibans sur plusieurs fronts, au nord, à l'est, à l'ouest. La situation est extrêmement compliquée.
Quelles sont les principales difficultés des autorités afghanes aujourd'hui ?
Le gouvernement de Kaboul est confronté à plusieurs sortes de terrorisme. Il n'y a pas que le Taliban, il y a au moins une vingtaine d'autres groupes et organisations terroristes qui sont actifs en Afghanistan. Par exemple, lorsque vous avez entendu un attentat contre une école des jeunes filles à Zahra, à l'ouest de Kaboul, il a été certainement commis par Daesh ou l'État islamique. L'assassinat d'une dizaine de mineurs dans le nord, cela par des inconnus, que pourrait être le fait des organisations terroristes issues de Xinjiang chinois ou de l'Ouzbékistan, etc. Voilà, ça c'est une réalité extrêmement complexe en Afghanistan qui annonce vraiment une situation beaucoup plus compliquée et beaucoup plus ingérable demain.
Karim Pakzad, spécialiste de l'Afghanistan et chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La vice-présidente américaine Kamala Harris est de retour à Washington après des visites diplomatiques au Guatemala et au Mexique. Elle a souligné l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la migration et de l'afflux de migrants à la frontière sud-ouest des États-Unis. Rosine Monezero a joint à Washington Jean-François Seznec, analyste politologue.
Écoutez, elle a certainement raison. Les gens veulent partir de chez eux parce que les choses ne marchent pas dans ces pays-là. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de mafias qui travaillent là-bas. Et effectivement, les gens veulent partir parce que c'est dangereux et pauvre d'habiter là-bas. Donc, les gens veulent partir à tout prix et il faut qu'ils essayent de résoudre ça. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Il est certain que le président du Guatemala, par exemple, a dit que la politique de Biden avait encouragé les flux migratoires en faisant penser aux gens et aux coyotes qui font passer les gens. Qu'ils allaient être reçus à bras ouverts aux États-Unis. Donc, il y a un problème de compréhension fondamentale entre le Guatemala, le Mexique et les États-Unis et l'administration Biden, bien sûr. Donc, la vice-présidente a beaucoup de travail à faire des deux côtés, sur la protection de la frontière elle-même et sur l'économie et la société dans ces pays-là.
Madame Kamala Harris a été claire sur la déportation de ceux qui vont venir aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est un message qui va porter les résultats escomptés?
Honnêtement, non, je ne pense pas, parce que les gens savent très bien que s'ils arrivent à la frontière et ils peuvent demander l'asile, ils vont avoir quand même plus de chances sous cette administration que dans l'administration précédente, au moins pour le moment. À mon avis, l'administration actuelle va prendre très rapidement exactement la même politique que la politique de l'administration précédente.
Et quelle est la réponse efficace pour stopper cette migration, ce flux migratoire, selon vous?
Bah écoutez, c'est un petit peu ce qu'essaye de faire la vice-présidente, elle est effectivement d'essayer d'aider les pays comme le Guatemala à résoudre certains de leurs problèmes en donnant un peu plus de financement à leur développement, etc. Et en ayant une politique très très dure à la frontière.
Jean-François Seznec, analyste politologue, joint à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La récente décision de Facebook de bannir l'ancien président américain Donald Trump pour 2 ans envoie un message aux dirigeants du monde entier. Facebook renforce son rôle de shérif sur son service. Reportage de Tina Trin. Récit d'Eric Manirakidza.
Avec Donald Trump suspendu de Facebook pour 2 ans, les experts affirment que la société de médias sociaux envoie un message aux dirigeants mondiaux et aux personnalités publiques que Facebook ne leur accordera plus de traitement de faveur lorsque leur discours enfreint ces règles.
Ce que cela signifie pour les autres dirigeants mondiaux, c'est qu'ils ne vont pas spécialement être traités différemment en raison de leur statut de dirigeants mondiaux.
À la suite de la suspension de M. Trump, Facebook a mis en place une nouvelle politique visant à sévir contre toute publication d'un dirigeant mondial susceptible de causer du tort ou de violer les normes de la communauté. Auparavant, Facebook laissait en place le contenu de personnalités publiques, arguant de l'intérêt public, même lorsque ce contenu violait ses politiques. Néanmoins, certains critiques affirmaient que les directives réglementaires sont encore trop vagues et qu'une suspension de 2 ans de Trump est trop légère et envoie le message que la porte de Facebook est toujours ouverte, même pour les contrevenants graves. Shireen Mitchell est la fondatrice de Stop à la violence en ligne contre les femmes. Elle est aussi membre du conseil de surveillance de The Real Facebook.
Le fait qu'ils se limitent seulement à la suspension signifie que les autres dirigeants mondiaux sont eux aussi en pause. Un peu, non? Cela signifie que peut-être, juste peut-être, ils pourraient avoir l'occasion de continuer.
Facebook indique que les personnalités publiques qui finissent par revenir s'exposent à des sanctions accrues en cas de récidive, allant d'un mois à 2 ans. Seuls les cas jugés extrêmes entraîneront une suspension permanente. Nick Clegg est le vice-président en charge des affaires mondiales de Facebook.
Peu importe qui vous êtes, vous pouvez être le pape, la reine d'Angleterre, le président des États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser nos services. Et j'espère que la plupart des gens penseront que c'est raisonnable pour aider, encourager, fomenter ou faire l'éloge d'actes de violence.
Bien que l'entreprise ait mis en place un conseil de surveillance indépendant chargé d'examiner ses décisions en matière de modération de contenu, certains experts affirment que ce conseil de surveillance constitue en soi une déviation. Faiza Patel est co-directrice du programme Liberté et Sécurité nationale du centre Brennan.
Mon sentiment est qu'ils utilisent cela comme un moyen de détourner des questions plus sérieuses sur ce que font leurs algorithmes pour diffuser certains types d'informations.
Au cours de l'année écoulée, les dirigeants de Facebook ont appelé le gouvernement à jouer un rôle plus important en vue de déterminer les règles devant gouverner l'Internet. Nick Clegg, vice-président en charge des affaires mondiales de Facebook.
La démocratie américaine n'appartient pas à la Silicon Valley, elle appartient au peuple américain et les personnes qui devraient fixer les règles sur la façon dont la démocratie américaine se déroule, tracer ses limites, déterminer si un discours est ou n'est pas acceptable, ne devrait pas être la prérogative des entreprises privées.
Bien que Facebook envisage d'examiner d'un regard plus critique le discours des dirigeants mondiaux, ce qui est certain, c'est que l'examen de Facebook lui-même ne va pas cesser de sitôt.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.